Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Pierre-Alain Mannoni, Cédric Héroux. En une semaine, deux affaires ont rouvert en France le débat sur l'aide que peuvent porter des particuliers aux migrants illégaux. La première concerne un professeur du CNRS poursuivi pour avoir tenté de transporter trois érythréennes pour qu'elles se fassent soigner. Cette affaire s'est soldée par une relaxe, mais le parquet a fait appel. La seconde n'en est pas encore là. Cédric Héroux, agriculteur vivant à la frontière franco-italienne, et lui poursuivi pour avoir aidé, hébergé 200 migrants. Il connaîtra le jugement le 10 février et même s'il risque officiellement jusqu'à 5 ans de prison ferme, il ne renie en rien ses actions.
Bien sûr qu'on continuera. De toute façon, chez moi, j'ai du monde à la maison. Il faudra continuer à les aider, à les soutenir. Et c'est pas à moi de faire une distinction entre noir et blanc, avec ou sans papier. C'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est paysan. Mon métier, c'est donner à manger à des gens. Et je le fais.
Voilà, deux cas qui relancent la question de ce que certains appellent le délit de solidarité, un délit qui en réalité n'existe pas en tant que tel, il n'est en tout cas pas mentionné dans la loi, mais il fait référence à l'article L622-1 du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel, je cite, « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France en cours, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ». Une disposition qui a plusieurs fois été limitée sous le mandat de Nicolas Sarkozy, puis sous le mandat de François Hollande. Notre loi ne saurait punir ceux qui en toute bonne foi veulent tendre une main secourable. Mot prononcé par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, c'était en juillet 2012. Aide aux migrants, délit ou solidarité, où placer le curseur, c'est notre thème du jour. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Serge Lama, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris-Ouest. Vous êtes aussi membre du CREDOF, le Centre de Recherche et d'Études sur les Droits Fondamentaux. En face de vous, pour en débattre, Didier Lesky, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'OFI, l'Office français de l'immigration. Et puis en direct avec nous par téléphone, Jean-Baptiste Lemoine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur apparenté, Les Républicains. Serge Lama, comment est-ce que vous regardez ces deux affaires qui ont réémergé ces derniers jours en France? Est-ce que vous y voyez un retour du délit de solidarité, comme on dit?
Alors, c'est pas un retour parce que c'est un délit qui existe depuis 1938 et malheureusement, il a connu de nombreuses applications depuis cette époque et particulièrement à partir des années 80. C'est la preuve que ce délit qu'on a dit à plusieurs fois abrogé, ça avait déjà été dit par Besson, ça a été redit par Hollande ou par Valls, existe toujours et encore aujourd'hui, faire preuve d'humanité à l'égard d'une personne en situation irrégulière peut mener à des poursuites, éventuellement à des condamnations, si on relève pas d'immunité. Donc c'est problématique. C'est d'autant plus problématique qu'aujourd'hui, le délit de séjour irrégulier n'existe plus. Il a été aboli grâce à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne et par la même loi Valls de décembre 2012. Et l'entrée irrégulière a été aussi remise en cause par la Cour de justice récemment.
Alors pour vous, ces deux affaires, donc, elles veulent dire qu'elles sont une preuve que ce délit existe. Est-ce qu'elles sont aussi la preuve d'une forme de durcissement en la matière ou pas du tout?
Alors la loi n'a pas changé, il y a même eu plutôt plusieurs immunités. Je rappelle que dans l'histoire, le délit est arrivé en 1938. C'est dans les années 84 où réellement le délit de séjour irrégulier est réprimé. Et par la suite, il y a eu de nombreux combats. En fait, c'est souvent grâce aux associations que les immunités ont été rajoutées. Dans les années 90, il y a un mouvement de cinéastes. À l'époque, on l'a oublié aujourd'hui, mais c'était Tavernier qui avait fait une pétition à l'époque avec un cas assez célèbre qui était Jacqueline Deltombe, qui avait permis d'avoir les proches, les conjoints, les ascendants qui ont été immunisés. Dans les années 2009-2010, l'immunité a bénéficié aux associations. Grosso modo, la disposition actuelle permet de protéger les associations qui font de l'assistance humanitaire ou juridique aux sans-papiers. Mais encore aujourd'hui, il y a des personnes comme les deux cas que vous avez cités qui ne sont pas nécessairement protégées ou totalement protégées dans leur action.
Jean-Baptiste Lemoine, je le disais tout à l'heure, donc dans l'affaire Mannoni notamment, il y a eu une relaxe qui a été prononcée malgré des réquisitions de plusieurs mois de prison ferme, a priori. Il y a ce risque, on encourt 5 années de prison. Comment est-ce que vous regardez ces affaires aujourd'hui?
Écoutez, c'est un débat, hélas, qui est vieux comme le monde. Souvenons-nous d'Antigone, Sophocle, en 500 avant Jésus-Christ, avait tout à fait résumé les choses. Mais je vois d'ailleurs que le débat est aussi un petit peu biaisé par la sémantique, parce que lorsqu'on parle de délit de solidarité, forcément, c'est jamais agréable de se dire qu'on ne serait pas solidaire ou moins solidaire que d'autres. Je crois qu'il s'agit de dire les choses, de nommer les choses. Effectivement, le L622-1 réprime toute personne qui, par une aide directe ou indirecte, facilite ou tente de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier, voilà, d'un étranger en France.
Mais est-ce que dans ces cas d'espèce, il faut appliquer la loi telle quelle ? Est-ce qu'elle vous semble adaptée à l'époque, cette loi, ou est-ce qu'il faudrait aller vers une modification ?
Moi, je crois que la loi, écoutez, elle est adaptée. Il faut des règles pour vivre en société. Et donc, nous sommes en France, le pays de l'universel. Si nous universalisions effectivement les comportements d'un tel ou d'un tel, quelle serait la situation ? Elle serait tout simplement ingérable. On serait dans un système tout simplement d'anarchie. Anarchie, sans normes, sans...
Ça serait pas l'anarchie.
Et donc, en réalité, on le voit bien, les enjeux en plus sont considérables parce que on sait que face naturellement aux problèmes économiques, aux problèmes politiques qui peuvent se poser effectivement sur le continent, on parle également des réfugiés climatiques dans quelques années. La solution, elle est d'arriver à apporter des réponses sur place. Moi, je suis un fervent défenseur du plan Borloo, par exemple, pour électrifier le continent, pour faire en sorte que les jeunes d'Afrique subsaharienne se disent « mais j'ai un avenir ». Parce que moi, je suis persuadé que l'Afrique est un continent, justement, où le potentiel est énorme.
Donc vous dites qu'il faut agir en amont. Alors, il se trouve quand même que ces situations, elles existent. Alors justement, Didier Leschi, vous, de par votre position, vous pouvez difficilement vous positionner sur le fond. En revanche, vous êtes ici le représentant de l'autorité. Vous gérez l'immigration légale. Est-ce que quand même ces comportements qu'on voit aujourd'hui devant les tribunaux, ils ne montrent pas qu'il y a un dispositif qui n'est pas adapté, finalement pas suffisant ?
Écoutez, je crois qu'il faut sortir des situations individuelles qui sont toujours tragiques. On parle de personnes qui sont à la fois dans des difficultés très grandes et d'autres personnes qui veulent les aider, ce qui est un sentiment, je dirais, naturel et humain. Je pense que le problème global, il est au-delà, c'est-à-dire qu'à travers ce geste militant, la question que posent ces personnes, hein, puisqu'il m'appartient pas de commenter une décision de justice, c'est de savoir si on est pour ou contre la liberté d'installation, puisque c'est ça en réalité qui est aujourd'hui en jeu à travers les phénomènes migratoires. Et donc la question qui est posée maintenant à l'ensemble des sociétés européennes, c'est de savoir si elles peuvent assumer ou pas cette idée de la liberté d'installation qui est, et c'est je crois cela qui est souligné par ceux qui font ces actions de solidarité, de leur point de vue, le corollaire de la liberté de circulation des capitaux.
Donc vous y voyez un vrai projet politique plutôt que finalement un geste solidaire basique, j'allais dire.
Je pense que les personnes qui font ça ont une conscience politique, ce qui est normal, et comme tout un chacun, et ce sont des citoyens, et que d'une certaine manière, à travers leurs gestes, eh bien, ils essayent d'accentuer les contradictions d'un système qui, d'un côté, a mis un certain nombre de pays dans des difficultés très importantes et qui, manifestement, il n'a pas su maîtriser. De l'autre côté, des économies qui ont du mal à se développer avec des dirigeants politiques qui n'arrivent pas à prendre en compte la situation réelle de leur population. Un gouvernement qui fait un certain nombre d'actions de développement, et l'OFI par exemple en fait à travers ce qu'on appelle les aides au retour et à la réinsertion. Et puis de l'autre, eh bien, une volonté d'aller jusqu'au bout d'une logique incohérente en accentuant l'idée de la solidarité.
Serge Lama, qu'est-ce que vous répondez à Didier Leschi et à ce que nous disait il y a un instant Jean-Baptiste Lemoine ? Est-ce que vous êtes d'accord, finalement, ce qui se joue là, c'est un petit peu le principe de la liberté d'installation partout, totale, j'allais dire ?
Je crois pas à travers le délit de solidarité, c'est nécessairement ça. Je veux bien que derrière, il y a une conception politique de l'immigration et du rapport à autrui, et certains veulent que ce rapport soit réglementé, d'autres veulent qu'il soit libre. Moi, je pense que c'est plus fondamental, c'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un qui est dans la difficulté, on lui demande pas ses papiers, on lui demande pas son statut, on est indifférent. On apprend ça à nos enfants à l'école, de pas prendre en compte la couleur de peau ou le statut de leur petit copain à l'école pour savoir s'il joue avec eux ou pas. Et donc là, fondamentalement, c'est ça qui se pose.
Mais alors, vous la mettez où le curseur ? Jusqu'où c'est légal ?
La question qui se posait à de nombreuses reprises, c'est pourquoi on rajoute pas dans cette disposition de manière intéressée, de manière lucrative ? Alors, je sais que dans les années 90... Jacques Toubon, qui était garde des Sceaux, avait écarté ça en disant il y a un risque d'aide, par exemple, des réseaux terroristes de manière désintéressée. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens puisqu'il y a des incriminations, l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste qui permet d'appréhender toutes les personnes qui aident des terroristes. Donc aujourd'hui, ce qui avait fait obstacle en 95-96 à ce qu'on rajoute le terme désintéressé ou à non lucratif, il n'existe plus. Et la question s'est reposée en 2012 lorsque Manuel Valls a fait adopter la loi de décembre 2012 qui a rajouté des immunités. Et là encore, il a écarté cette idée-là. Et pourtant, c'est la seule façon de régler cette disposition. C'est-à-dire, tous les cas que vous parlez médiatiquement ne pourraient pas être appréhendés s'il y avait simplement à titre désintéressé ou à titre non lucratif.
Jean-Baptiste Lemoyne, peut-être une réponse à ce que vient de nous dire Serge Slama. Est-ce qu'il faut finalement changer la loi, faire intervenir ce nouveau concept, cette nouvelle limitation ?
Écoutez, on a vu déjà le L622-1 est atténué par un certain nombre effectivement d'immunités, immunités qui ont été complétées sous le mandat de François Hollande. Donc la loi a plutôt été assouplie. Je ne pense pas qu'il faille aller vers de nouveaux assouplissements. Je pense en réalité qu'il faut, s'il faut être solidaire, effectivement l'être différemment. Une personne fuit un régime. Eh bien, dans ces cas-là, est-ce que le meilleur conseil, c'est pas de lui dire, mais inscris-toi dans les procédures du droit d'asile, parce que la France est généreuse. La France, naturellement, applique le droit d'asile. Et donc là, ce sont des procédures tout à fait, d'ailleurs, normées, il y a des prises en charge, etc. Mais c'est ça la meilleure réponse. Et puis, pour celles qui ne peuvent pas être admises à ce droit-là, eh bien, effectivement, il peut y avoir une aide de retour et une aide à l'insertion. Didier Lesky en a parlé. C'est un beau mot que celui d'insertion et que d'aider avec un projet. Cela, ça existe dans notre législation. Et je regrette effectivement que, eh bien, depuis en 5 ans, eh bien, finalement, ces aides pour les ressortissants des pays tiers de l'Union européenne étaient divisées par 3. On est passé de 6 000 personnes qui en ont bénéficié à 2 000, d'après un rapport du Sénat. Et donc, vous voyez, moi, je pense qu'il faut être solidaire autrement.
Alors, Didier Lesky, je vous repose un petit peu la question des moyens. Est-ce que vous avez les moyens, avec l'OFI, d'être solidaire différemment à l'égard de ces personnes ?
En tout cas, en ce qui concerne l'aide à la réinsertion et l'aide au retour, on a eu une baisse jusqu'à l'année dernière. On est de nouveau en hausse. On est même en une hausse très importante pour les pays soumis à visa. C'est une hausse qui atteint 16%. On va atteindre les 3700, 3800 personnes. Enfin, j'ai pas exactement le chiffre en tête. Donc, on a les moyens. Du reste, on a augmenté considérablement l'aide au retour à partir de la mise à l'abri de Calais, puisqu'on est monté jusqu'à 2500 euros par personne, hein, qu'on soit adulte ou mineur, ce qui est un chiffre extrêmement important. Ce qui a baissé, c'est le nombre de personnes qui ont bénéficié de ces aides au retour qui appartenaient à des pays non soumis à visa. Hein, c'est en particulier des pays qui sont récemment rentrés dans l'Union, comme je pense à la Roumanie, qui ont fait les flots importants de retour avec des succès qui n'étaient pas avérés. Mais je crois que la question qui est posée, c'est peut-être celle d'une harmonisation à la fois des procédures européennes en la matière, d'une manière d'enregistrer les demandeurs d'asile, et puis après d'avoir des systèmes de répartition au niveau européen qui soient pertinents. La France est le premier pays.
On en revient finalement toujours un peu à la même question. La France n'est pas toute seule dans l'Europe.
La France est le premier pays en termes de personnes relocalisées à partir de la Grèce et de l'Italie, mais sur des chiffres qui restent modestes par rapport à la pression. Mais c'est un effort important. Et puis, on a quand même le résultat de désordre du monde, dans lequel, par exemple, la France n'a pas a eu une attitude en retrait, je pense à la deuxième guerre d'Irak, hein, et où on n'a pas la solidarité, sans doute espérée par rapport aux désordres qui ont été engendrés, de la part de pays qui, eux, étaient en première ligne par rapport à ce qui a provoqué après des exodes massifs.
Alors, aide aux migrants, délit ou solidarité, c'est donc le sujet de notre débat de ce soir, avec 3 invités, Didier Lesky que vous venez d'entendre, Jean-Baptiste Lemoyne qui est avec nous en direct par téléphone, et Serge Slama sur les solutions. Donc vous nous disiez tout à l'heure, il faut modifier la loi. Certains disent qu'il faudrait carrément supprimer purement et simplement toute poursuite envers les citoyens venant en aide aux migrants. Didier Lesky nous dit à l'instant, c'est aussi une question d'harmonisation des lois en Europe. l'Europe. Vous situez où sur ce terrain? C'est un peu les trois.
Oui, enfin non, moi je suis assez clairement pour l'abrogation de la disposition dès lors que le délit d'entrée et le délit de séjour n'ont plus vocation à exister. Je voudrais rebondir tout de même, c'est pas le propos de savoir s'il y a une aide au retour ou pas. Parce que le problème c'est que les personnes dont on parle, elles résistent même pas à traverser la frontière franco-italienne. On parle de personnes qui arrivent par Lampedusa, dont les empreintes ont été prises, elles ont été enregistrées dans les systèmes, ils arrivent à la frontière française, on a rétabli les contrôles frontaliers, notamment en lien avec les attentats du 13 novembre. Et ces personnes-là, ils réussissent même pas à faire une demande d'asile aux autorités françaises. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui aimeraient bien faire des demandes d'asile, mais sauf qu'on fait une remise quasiment automatique, on n'enregistre pas leur demande d'asile. Il n'y a pas de demande d'asile là-bas, ou très peu. Donc ça, déjà, c'est un problème.
Non,
c'est qu'on parle de délit de solidarité à l'égard de personnes qui sont des potentiels demandeurs d'asile.
Comme vous êtes juriste, vous savez exactement de quoi il s'agit.
Je pourrais le dire.
Deuxième chose. Les personnes sont enregistrées. Dans le cadre
on les enregistre pas, il y a des refus d'enregistrement de la police, on leur demande même pas, on met en application les accords de Chambéry.
Enregistrés en Italie, et après, ils relèvent, effectivement, du premier pays où la procédure. Alors, mais c'est pas ça le sujet. Je dirais que c'est assez anecdotique.
Suppression de toutes les poursuites et sur.
Suppression de la disposition du Code des étrangers qui prévoit le délit d'aide à l'entrée et au séjour.
Et alors, sur l'harmonisation des législations européennes, est-ce que là aussi c'est l'une des clés?
En fait, il existe déjà un texte. Il existe déjà un texte. Il y a des conventions de Palerme, mais il y a une directive européenne qui prévoit juste des problèmes d'aide à l'entrée, pas du tout au séjour. Et la France était un des rares pays pendant très longtemps à avoir un délit de séjour irrégulier. C'est vraiment un des rares pays. On est le premier historiquement, 1938, et un des rares à avoir eu ce délit-là. Il y a d'autres pays qui se sont alignés sur la France depuis, notamment l'Italie, on les a inspirés. Et donc, effectivement, il faudrait une harmonisation, mais dans une harmonisation dans le sens où, dès lors qu'il n'y a pas de contrepartie, dès lors que c'est pas de manière intéressée, dès lors que ça repose que sur un geste humanitaire, il n'y a pas de raison de poursuivre les personnes.
Jean-Baptiste Lemoine, sur cette question de la France, finalement, au sein de l'Europe, quelle est votre position?
Non, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on ne peut pas raisonner à l'échelle uniquement de l'État-nation. Voilà, donc clairement, d'ailleurs, il a fallu attendre les deux, trois dernières années pour se rendre compte que le travail au niveau européen était quand même assez peu satisfaisant, pour se rendre compte que Frontex n'était pas doté des moyens au regard des missions importantes qui lui sont confiées, puisqu'il y a quand même eu un certain nombre de transferts de compétences. Et voilà. Et donc là, je pense qu'il faut absolument mettre les bouchées doubles. Et puis par ailleurs, moi j'appelle vraiment à ce que il y ait une véritable politique, je dirais, de continent à continent, avec les décideurs de l'UE et ceux de l'Union africaine, qui vraiment arrivent à faire un grand sommet et à prendre des mesures concrètes. Parce qu'encore une fois, on n'en est que au début, potentiellement, de ces phénomènes migratoires, compte tenu de tous les enjeux, notamment climatiques. Et que donc, il faut arriver absolument à trouver les conditions d'un développement harmonieux du continent, faire en sorte que les femmes et les hommes puissent s'y épanouir. Et vraiment, c'est pas un vœu pieux, parce qu'on est en début d'année, mais parce que sinon, la situation sera purement intenable sur le continent européen. Et moi, je peux vous dire, pour être sur mon terrain dans l'Yonne, qu'il y a également le tissu de la cohésion sociale et nationale, il est parfois un peu ébranlé partout, effectivement, ce qui peut s'observer, ce type de phénomène qui met les gens vraiment dans un état de nerfs qui, encore une fois, peut conduire à pas mal de désagréments dans les élections à venir. Donc j'appelle vraiment à la responsabilité, au fait que les chefs d'État des deux continents arrivent vraiment à prendre la mesure du problème.
Alors juste un dernier mot, parce que nous sommes sur Radio France Internationale et qu'évidemment le problème, on en a parlé, n'est pas que français. Est-ce qu'on a des éléments de comparaison, par exemple en Allemagne, où il y a beaucoup de réfugiés qui ont été accueillis, aussi beaucoup d'illégaux qui sont rentrés? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des délits qui sont du même ordre, Serge Lamain?
Alors vraiment, sur les réfugiés ne sont pas concernés, hein, puisque les réfugiés ont droit de traverser légalement les frontières, donc ça remet tout de même, on revient au débat, si c'est des personnes qui relèvent de Dublin, les personnes qui les aident devraient pas pouvoir être poursuivies. Pareil pour les mineurs d'ailleurs, les mineurs, on devrait pas y avoir de poursuites.
Mais alors sur les illégaux,
en Allemagne, en fait, ils avaient un délit de séjour irrégulier, ils n'ont pas de délit d'aide au séjour irrégulier. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à la directive retour et à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, ce délit a disparu en Europe. Donc il faut tout de même être cohérent et se dire que dès lors qu'on ne peut plus poursuivre un étranger pour entrer grâce à une décision de la Cour de justice et séjour irrégulier, il n'y a pas de raison de poursuivre les personnes qui soutiennent ces migrants, surtout que la plupart sont en réalité des réfugiés ou des personnes en recherche d'une protection.
Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Serge Lama, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre, à Didier Lesky, directeur général de l'OFI, Jean-Baptiste Lemoine, sénateur affilié Les Républicains. Merci également à Florence Ponce, à Valentin Vaner et à Pierre Firsion qui nous a beaucoup aidé ce soir. À demain.